Nous avons trois invités. Jean-Marie Collin, expert et porte-parole de ICAN France, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Nous avons Jean-Pierre Deryenek, professeur associé au département de sciences politiques de l'Université Laval du Québec. Et avec moi ici en studio, Émile Baroudi. Vous êtes journaliste basé ici à Washington. Merci à tout le monde d'être avec nous pour ce débat. Je démarre avec vous, Émile. Justement, le discours du président Trump mercredi est, dit-on, mesuré. Et, car il n'a pas annoncé de nouvelles actions militaires immédiates, mais il a tout de même annoncé de nouvelles sanctions et il a aussi indiqué qu'il ne permettrait pas à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Comment est-ce que vous appréciez tout cela ?
Ben écoutez, que l'Iran réponde plus violemment qu'elle ne l'a fait était un peu hors de question. L'Iran peut être... peut crier sur tous les toits son indignation et tout, mais l'Iran n'est pas suicidaire. Le régime des Mullahs n'est pas suicidaire du tout. Les Iraniens calculent très bien leurs actions. Et d'ailleurs, avoir tiré des fusées, des missiles balistiques sur des zones inhabitées de certaines bases irakiennes qui abritent des forces américaines, le prouve. Ils voulaient faire quelque chose pour sauver la face. C'était un truc
de principe. Et la réponse du président Trump, comment vous la jugez ?
La réponse du président Trump est tout aussi mesurée. Il ne veut pas non plus lui-même déclencher une guerre qu'il ne voudrait pas. Il ne voudrait pas ouvrir la porte à ses opposants à l'intérieur d'avoir de quoi alimenter le feu contre lui. Et il a marqué son point. Il a clairement démontré qu'il était prêt à faire face à l'Iran de n'importe quelle façon.
D'accord. Alors, Jean-Pierre Deryenek, est-ce qu'on peut parler de désescalade à ce stade ou bien c'est plutôt un peu tôt, surtout quand on ne sait pas comment les milices pro-iraniennes en Irak, au Liban ou en Syrie vont réagir?
Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Monsieur Baroudi. Il y a juste deux choses quand même dont il faut se souvenir. C'est que si on fait exprès de lancer des projectiles sur des bâtiments vides pour faire semblant de réagir en créant le moins de conséquences possibles, on risque toujours de se tromper et d'avoir un missile qui tombe sur un bâtiment où il y avait des gens et où ça déclenche une réaction démesurée qui n'était pas prévue. Et il y a une autre possibilité qui, moi, me semble, existe très fortement au Moyen-Orient, là, depuis une semaine, c'est qu'il y a énormément de gens au Moyen-Orient pour qui les chiites et l'Iran sont des ennemis et pour qui les Américains sont des ennemis aussi et qui peuvent, eux, chercher à déclencher l'affrontement entre les Américains et les Iraniens. Et s'il y a une opération grave attribuée à des mouvements dont on dit ce sont des instruments de l'Iran à l'intérieur de l'Irak ou à l'intérieur du Yémen ou à l'intérieur de la Syrie ou ailleurs.
Hein, vous craignez des manipulations ?
Énormément. C'est un attentat ? Est-ce que c'est une provocation ? Est-ce que c'est un attentat qui est fait par des gens qui veulent envenimer la situation, parce qu'il y a évidemment des minorités actives au Moyen-Orient qui souhaitent envenimer cette situation, même si les dirigeants iraniens, et c'est compréhensible, ne veulent pas envenimer les choses, même s'ils doivent faire semblant de réagir de façon vigoureuse. Et on est toujours un petit peu surpris avec Trump d'avoir ce discours terriblement agressif d'abord et qui ensuite devient de façon conciliante, de façon très très inattendue. C'est ce qu'on en observe avec le discours d'hier, comme on avait observé déjà le même phénomène avec la Corée du Nord dans le passé.
D'accord, on pourra, si vous le permettez, revenir sur la stratégie
réalité
du président. Jean-Marie Collin, l'Iran avait indiqué, après la mort du général Soleimani, qu'il ne respecterait plus ses engagements dans le cadre de l'accord de Vienne, alors que le président Trump dit qu'il ne permettrait jamais à Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire. Est-ce que, finalement, on ne va pas vers de nouvelles confrontations, quelle qu'en soit la forme ?
Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ni Trump, ni aucun État à travers le monde, en fait, ne souhaite que l'Iran ait l'arme nucléaire. Hein. L'Iran est membre du traité de non-prolifération nucléaire et donc c'est en soi engagé à ne jamais acquérir l'arme nucléaire. Et pour revenir sur les nouvelles mesures que l'Iran a indiquées pour sortir de cet accord de Vienne, donc en anglais le JCPOA, malheureusement le calendrier tombe mal entre l'assassinat du général Soleimani et cette nouvelle annonce, puisque de toute façon cette nouvelle annonce était prévue depuis plusieurs mois, puisque ça fait partie d'un calendrier que l'Iran a lui-même fixé depuis que les États-Unis se sont retirés de cet accord en mai 2018. Donc il y a un choc de calendrier malheureux, mais qui est bien réel. L'Iran, donc, aujourd'hui s'autorise à dépasser un certain nombre de points, notamment à avoir plus de matériel pour enrichir l'uranium, par exemple, à disposer du taux d'enrichissement qu'il désire, mais reste quand même dans cet accord, notamment puisqu'il laisse les inspecteurs de l'Agence de l'International pour l'énergie atomique à avoir la capacité de venir inspecter les différents sites.
Les inspecteurs sont toujours sur place.
Exactement. Donc c'est ce qui fait que, d'abord, cet accord existe encore, du moins entre les Iraniens et l'Europe, la France, l'Allemagne et la Russie. Et c'est pour ça qu'en fait, que, notamment l'Union européenne et la France en premier, essayent de faire en sorte de conserver au maximum cet accord, puisque entre la situation d'il y a 4 ans, 2015, et, enfin, ou d'il y a 5 ans et aujourd'hui, celle-ci s'est largement détériorée à cause du retrait des États-Unis.
D'accord. Émile, l'Irak, quand même, est devenu un peu un champ de bataille et d'influence avec les présences iraniennes et américaines sur son territoire. Est-ce que Bagdad a les moyens vraiment d'empêcher que son territoire ne soit un terrain de confrontation entre deux de ses alliés ? L'Irak est aussi bien allié à l'Iran qu'aux États-Unis.
Ça va être très difficile. Déjà, qu'il y ait ces confrontations sur son territoire est déjà un truc très difficile à gérer. Et ça ne montre que l'incapacité et la paralysie totale du gouvernement irakien qui est, tout le monde le sait, complètement inféodé aux Iraniens. Et c'est pareil au Liban, où le Hezbollah essaye de dominer la scène politique et de contrôler le gouvernement. Et on le voit actuellement, avec le retard que prend la formation du gouvernement au Liban, alors que ça aurait dû être un truc. Mais à chaque fois qu'un gouvernement est formé au Liban, c'est de plus en plus difficile, parce que le Hezbollah essaie de tout tenir. C'est la façon avec laquelle l'Iran essaye de contrôler ses ramifications qui lui permettent d'avoir un plus grand volume politique qu'elle ne l'est dedans ses frontières.
Donc l'Irak est un peu entre le marteau et l'enclume, si on peut y incider.
Je crois que l'Irak est l'enclume et tout lui tombe dessus.
Ok. Et Jean-Pierre Derienic, c'est vrai aussi qu'on a vu l'OTAN demander à l'Iran d'éviter, je cite, de nouvelles provocations. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'Alliance Atlantique soutient sans réserve l'administration Trump dans ce bras de fer avec Téhéran ?
Certainement pas. L'Alliance Atlantique, théoriquement, n'est pas vraiment concernée. C'est pas la zone géographique de l'Alliance. Des attaques contre les Américains entraînent la mise en œuvre, l'application du traité si c'est sur le territoire américain que cette attaque a eu lieu, d'où l'invocation en 2001 après l'attentat du
11 septembre.
L'OTAN a la possibilité de louvoyer dans cette affaire et de s'arranger pour s'engager le moins possible du côté des Américains sans le leur dire trop clairement pour essayer de continuer à exercer sur eux une influence modératrice. Moi, ce qui m'étonne beaucoup du point de vue de la position des Européens, c'est les sanctions contre l'Iran. Sanctions qui ont été rétablies par les États-Unis avec leur annulation de l'accord nucléaire. Comment se fait-il que les autres États qui font partie de cette entente nucléaire ne soient pas capables d'avoir des échanges avec l'Iran, qui est pour conséquence que la capacité de sanctions économiques des États-Unis contre l'Iran soit très limitée. Aujourd'hui, les États-Unis n'achètent pas de pétrole pétrole iranien et les choses que les Iraniens peuvent avoir besoin d'acheter aux États-Unis, ils peuvent les trouver un petit peu partout ailleurs dans le monde.
Justement,
la faiblesse des autres partenaires de l'accord nucléaire, pas qui, je crois, mérite d'être préservé, et que c'était pas tellement difficile de dire aux Iraniens, écoutez, les Américains cessent de le respecter, mais nous, nous continuons à le respecter, on va s'arranger pour que la défection américaine ait le moins de conséquences.
Justement, je demande à vous, Jean-Marie Collin, les Européens soutiennent toujours l'accord sur le nucléaire iranien, mais sont dans une alliance stratégique avec les États-Unis aussi. Ils sont dans une position difficile, n'est-ce pas ?
Oui, la position est difficile, mais la position est affirmée depuis le début, autant par le chef de l'État français actuel, président Macron, que le président Hollande précédemment, et que par les différents acteurs européens comme Joseph Borrell, qui est le nouveau chef de la diplomatie européenne, ou le président du Conseil européen Charles Michel, tous soutiennent fermement cet accord de 2015, puisqu'ils savent que c'est l'accord qui a permis de mettre un terme à la prolifération nucléaire. C'est un accord qui a mis 13 ans pour être obtenu. C'était un accord sûr et valable qui permettait d'aller jusqu'à 2030. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que l'Iran est lié quand même par le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, il interdit bien d'avoir des armes nucléaires. Donc, les Européens essayent de ménager les États-Unis, essayent de pousser les États-Unis à diminuer leurs sanctions. Ils n'y arrivent pas. Et c'est vrai que même s'ils soutiennent cet accord, malheureusement, ils n'ont pas été capables de mettre en place cet instrument, ce fameux outil d'échange entre l'Iran et l'Union européenne, principalement un STEX, même s'il y a 6-7 pays aujourd'hui qui sont à l'intérieur. Et il y a des vraies difficultés aujourd'hui à mettre en place cet outil pour permettre aux Iraniens de sortir de cette crise économique et donc de respirer un peu et donc de laisser un peu de flexibilité sur la réalité de cet accord et sur son maintien pleinement.
Peut-être rapidement, Émile, l'élément intérieur de cette crise, est-ce qu'il faut le considérer, les démocrates qui veulent une implication du Congrès, alors que les républicains pensent que le président a l'autorité pour mener des frappes de ce genre? Est-ce qu'il y aura des implications au niveau intérieur?
Je ne crois pas. Je crois que ce que font les démocrates maintenant est une espèce de petit jeu politique, politicien. Ils essaient un peu de coincer le président, qui est déjà dans de mauvais draps à cause du impeachment qui est en progrès et des élections qui viennent. Je crois que le président essaye de paraître puissant et bien, qui tient bien la situation et les intérêts des États-Unis à l'extérieur et qu'il fait respecter les États-Unis à l'extérieur parce qu'au Moyen-Orient, finalement, ces derniers temps, les États-Unis n'étaient pas très respectés. Mmh. Mais je ne vois pas une plus grande dimension politique intérieure.
D'accord. Et vous, M. Deryanik, peut-être avant d'aller en pause rapidement, que pensez-vous de l'opinion publique américaine? Est-ce que vous pensez qu'elle est prête pour un autre conflit au Moyen-Orient?
Non, elle n'est pas. Si la crise au Moyen-Orient débouche sur des affrontements graves avec des soldats américains qui se font tuer, c'est mauvais pour Trump. Si ça reste une espèce de crise symbolique comme maintenant, où il fait curieusement la démonstration à la fois de sa force, de sa volonté, de son audace et de sa prudence. Je crois que ça joue plutôt en sa faveur. Est-ce qu'il a inventé ça pour diminuer le coût pour lui de l'impeachment? Je ne sais pas. De toute façon, il ne sera pas destitué par le Sénat. Il ne risque pas grand-chose. La seule chose qui compte, c'est quelle influence ça a sur l'élection de la fin de cette année.
Oui.
Pour l'instant, au point où nous sommes rendus dans la crise au Moyen-Orient, je crois que ça joue plutôt en sa faveur.
Voilà.
Malheureusement.
Merci beaucoup. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. seconde partie de Washington Forum, Abdourahmane Dia, la présentation. Nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur notre page Facebook. Aruna Balde à Dakar nous dit « En ce 21e siècle, la guerre n'a pas sa raison d'être, donc il faut que les deux protagonistes enterrent leurs divergences autour d'une table, car répondre à la violence par la violence ne fera qu'empirer les choses. » Fayol Mavanga à Lyon, en France, dit « Nous ne voulons pas des pertes en vies humaines, mais un dialogue entre les deux nations, comme ce fut le cas avec Pyongyang. » Marie-Jeanne Abega à Yaoundé écrit « Monsieur Trump nous épargne, qu'il nous épargne de cette violence. La communauté internationale et le Conseil de sécurité devraient revoir leur copie et infliger aussi des sanctions à ces artisans de la guerre. » Et puis Chamberlain Diolo Théophile à Yaoundé toujours pense que c'est l'Afrique qui en paiera le prix, parce que ce conflit peut aussi se faire par pays interposés, étant donné que l'Afrique est vulnérable. Voilà donc quelques-uns des points de vue de nos téléspectateurs. Et je rappelle nos invités, Jean-Marie Collin, expert et porte-parole de ICAN France, campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Jean-Pierre Derienec, professeur associé au département de sciences politiques de l'Université Laval du Québec. Et avec moi, ici en studio, Émile Baroudi, journaliste basé ici à Washington. Jean-Marie Collin, le président Trump demande aux pays signataires de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien de sortir de cet accord pour permettre de nouvelles négociations. Alors, faut-il partir sur de nouvelles bases ou faut-il convaincre les États-Unis de revenir dans cet accord qui existe déjà ?
Écoutez, c'est difficile de tirer un trait sur ce qui a été réalisé, puisque si on sort tous de cet accord, on va se retrouver sans rien. Donc il est clair qu'il faut essayer de repartir sur des nouvelles bases, mais pour essayer de convaincre les Iraniens de partir sur des nouvelles bases, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont les États-Unis qui se sont retirés d'un accord qu'ils avaient eux-mêmes accepté, il faut donner des garanties. Aujourd'hui, la complexité, finalement, c'est d'arriver à donner des garanties à l'Iran que si l'on trouve un nouvel accord, ce futur accord sera bien conservé et accepté par toutes les parties. Et c'est ça aujourd'hui la véritable problématique, de pouvoir donner une garantie, une confiance aux diverses parties. Un des points sur lesquels aujourd'hui la France essaie de travailler, c'est de rajouter une diminution, d'impacter les missiles balistiques iraniens, ce qui semble être aujourd'hui catégoriquement refusé par cet État, qui pour eux, ces missiles sont indiqués comme étant une garantie de sécurité intérieure de cet État. Donc on est véritablement dans un dilemme extrêmement compliqué pour pouvoir arriver à quelque chose, non pas de nouveau, mais pour pouvoir arriver à quelque chose qui viendrait compléter cet accord de l'Iran.
D'accord. Jean-Pierre Derienec, y a-t-il une comparaison dans la stratégie du président Trump en Corée du Nord avec celle sur l'Iran, par exemple? Cette pression maximale finira-t-elle autour d'une table de négociation, comme ce fut le cas avec la Corée du Nord?
Oui, ça c'est l'analogie la plus évidente. Il y en a une autre qui est peut-être moins évidente, mais qui l'est pour moi qui suis canadien. C'est la façon dont Trump a remis en cause l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Hein? Cet accord, il a été renégocié, on lui a donné un nom différent, il a des caractéristiques qui ne sont pas très très différentes de l'accord précédent. L'accord précédent, Trump avait dit que c'était le pire accord qui ait jamais été signé. Là, maintenant, c'est devenu le meilleur accord parce que c'est lui qui l'a signé. Je crois que ce qu'on peut souhaiter de mieux à l'accord nucléaire iranien, c'est qu'il soit remplacé par autre chose qui sera à peu près la même chose que ce qui avait été convenu dans le passé, mais auquel on va donner un nom différent et dont Trump pourra prétendre que c'est sa réalisation extraordinaire. Je ne sais plus quel est... C'est Tocqueville, je pense, au 19e siècle, qui disait qu'en politique, on obtient beaucoup en tablant sur la vanité des autres hommes politiques. Je pense que tous les partenaires de Trump ou les adversaires de Trump doivent savoir qu'ils ont affaire à un personnage extraordinairement vaniteux et qu'il faut lui faire des concessions à sa vanité, que ça, c'est pas grave.
L'essentiel, c'est d'arriver à un accord. Essentiel. D'accord. Et Émile, les relations entre Washington et Téhéran ont été tendues depuis 1979. Hein. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un rapprochement entre les deux pays, surtout quand on sait qu'ils ont un ennemi commun dans la région, en l'occurrence le groupe État islamique? Qu'est-ce qui...
D'aucuns penseraient que l'État islamique est aussi une création de l'Iran, ou du moins encouragé et aidé. Quelques-uns le disent. Mm-hmm. Enfin. Mais je crois que ce que le président Trump voudrait voir dans un éventuel nouvel accord, c'est la limitation de l'influence iranienne dans les autres pays du Moyen-Orient. Le président Trump considère que l'Iran a profité de son accord, de l'accord nucléaire, pour se renflouer en espèces, en cash, et pouvoir dépenser toutes ces nouvelles richesses dans ces pays-là et acheter une influence. Et je crois que c'était assez intelligent de l'Iran de le faire. Ils ont pu acheter avec de l'argent ce qu'ils n'auraient jamais pu faire. Jamais pu réaliser avec des fusées, des têtes nucléaires et tout. Donc je crois que la prochaine étape va être un tout. Ce n'est plus seulement, on ne parle pas seulement du nucléaire, on ne laisse pas les missiles, on ne laisse pas le Conseil de sécurité s'occuper des missiles. On va essayer d'arriver à un accord global qui va définir le rôle de l'Iran et les limites de l'Iran dans la région.
Vous pensez que l'Iran va renoncer à son influence dans la région? C'est quand même assez optimiste, non?
Vous vous souvenez, M. Netanyahu disait que si, comme le disait le président Obama, les négociations et les sanctions ont fait venir l'Iran à la table des négociations, M. Netanyahu disait qu'on les laisse ramper. Mmh. Donc, en renforçant les sanctions, il arrivera bien quelque chose.
D'accord. Alors, Jean-Marie Collin, la Chine et la Russie ne se sont pas beaucoup exprimés sur cette dernière crise. Ces deux pays peuvent-ils jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette crise?
En tout cas, la Chine et la Russie ont pris... le président français a pris contact avec la Russie dans l'objectif de calmer la situation et d'éviter qu'il y ait toute escalade, pour revenir au tout début de cette interview. Il est évident que ces deux États, eux aussi, soutiennent très fortement l'accord de Vienne et donc souhaitent qu'il soit conservé. La Russie est un acteur clé pour l'Iran, notamment en termes de systèmes et de ventes d'armes. Donc, c'est l'une des problématiques, même si aucun des deux États ne cherche l'escalade, et peut-être malheureusement on s'en est aperçu avec ce terrible crash de cet avion où on ne sait pas encore ce qui s'est réellement passé, ouais. Mais on peut arriver vers un événement inconnu, un événement dont personne ne peut connaître et qui enclenchera une escalade dont on ne sait pas jusqu'à où elle pourra aboutir, peut-être une guerre, peut-être pas une guerre. D'accord. Mais on est dans cette problématique et c'est toute la question aujourd'hui finalement aussi derrière des armes nucléaires et c'est toute l'importance. Et alors, sur laquelle, justement, notre campagne porte sur la question du traité d'interdiction des armes nucléaires.
D'accord. Monsieur Derianik, on a peut-être 10 secondes. Vous aussi, la Chine et la Russie, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces deux nations? Rapidement.
La Chine et la Russie sont concernées aussi par ce que je disais tout à l'heure dans le cadre des Européens sur l'application des sanctions envers l'Iran, faire en sorte que les sanctions américaines envers l'Iran aient le moins de conséquences.
D'accord.
Et que donc l'Iran soit incité à continuer à respecter l'accord nucléaire.
Voilà.
La Chine et la Russie.
D'accord, on a bien compris votre point de vue. Nous arrivons malheureusement au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir. We'll be right back.